Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'AB2S. Ça faisait longtemps et on s'excuse pour cette longue absence. Une émission toujours en partenariat avec isnews.fr, le média qui donne la parole aux invisibles. Au programme cette saison, des parcours toujours plus atypiques les uns que les autres. La formule reste la même, un invité, un tête-à-tête, de la confidence, des émotions, des rires, beaucoup de rires, parfois des larmes, mais surtout beaucoup d'apprentissage. AB2S saison 3, épisode 5, c'est parti.
Là je suis pas bien, donc la morale tu vas la faire à d'autres. Là je suis pas bien.
Pour cet épisode avec moi, policier à la direction de la coopération internationale du ministère de l'Intérieur, il est celui qui monte au créneau pour défendre la profession de policier dans les médias, pourtant qualifié par certains de nègre de maison ou encore de bounty. Ça ne l'empêche pas de chercher le dialogue. Pour lui, la relation police-population passe par cette voie. Policier rigoureux, tuitos tranchant et papa aimant, Abdoulaye Kanté est mon invité. Comment ça va ?
Bonjour, bonjour.
Très heureux de te recevoir déjà.
Merci, très content. L'invitation.
On t'avait déjà reçu dans d'autres cadres. À la radio, là c'est un cadre un peu plus intimiste, un peu plus détendu. Ouais. Déjà, est-ce que ça va toi ?
Oui, oui, ça va, ça va. On fait aller, il faut, je pense.
Avec l'actualité, tout ça.
L'actualité, malheureusement, elle est morose, elle est assez lourde, mais je pense aussi qu'il faut essayer d'avoir une petite touche d'optimisme, malgré tout. C'est pas facile, hein. Je me mets un peu à la place des personnes qui vivent mal certaines choses et. Et ouais, c'est pas facile, mais bon, il faut quand même essayer d'avoir un petit peu d'optimisme, quand même.
On y reviendra dessus au cours de l'émission. Ce que j'ai l'habitude de faire avec mes invités, c'est une petite fiche d'identité. Mmh. Alors, si t'es prêt, on va la remplir ensemble. Est-ce que c'est bon pour toi ?
C'est parfait.
Place à la fiche d'identité. Alors, toi, t'es la fiche d'identité numéro 141-069-21. Nom, prénom ou pseudo ?
Nom, prénom, Kanté Abdoulaye. Donc, pseudo, il y a plusieurs pseudos.
On t'appelle
Kobe,
pas,
voilà. Papy, voilà, il y a plein de plusieurs pseudos.
Pourquoi Kobe, Papy, c'est...
Parce que je porte le prénom Abdoulaye, je porte le prénom de mon grand-père. Kobe, parce qu'en fait, dans la langue malienne, Kobe,
ah,
donc c'est beaucoup
oui.
De choses, tu vois.
Ok.
Donc, voilà, les gens ne savent pas, mais voilà.
Ok, intéressant. Date de naissance ?
03-09-1978.
Lieu de naissance ?
Ivry-sur-Seine, 94.
Profession ?
Policier.
Passion, hobby ?
Passion, je pense foot, le MMA, ciné, et aussi je suis assez épicurien, je m'intéresse à beaucoup de choses en fait.
Supporter de l'Olympique de Marseille.
Exactement.
C'est une bonne chose, c'est pour ça que...
Voilà, tu vois, donc c'est pour ça que je suis bien reçu. Je pense qu'on est chez Mon Paris, mais bon voilà, je suis supporter de l'OM.
On est supporter de l'OM ici,
c'est ça.
Est-ce que tu as une citation préférée ou une phrase qui t'a marqué au cours de ta
une
vie ?
Une citation préférée, oui, je l'ai écrite dans mon livre. Et que c'était mon grand-père qui l'avait dit. Il m'a dit que, tu sais, en fait, le jeune court vite, mais l'ancien connaît la route.
Ok. Ouais, voilà. C'est profond, ça.
Ouais. Tu vois, je pense aussi que c'est quand même très important parce que cette citation, elle exprime beaucoup de choses parce que c'est que, évidemment, quand t'es jeune, t'es fougueux, t'as envie vraiment de tout déchirer, t'as envie vraiment de faire tout, mais tu peux pas tout faire sans avoir, on va dire, un minimum de cadre, au moins qu'on t'explique. Les choses, tu vois. Et ça, je pense que ça a tout son sens. Parce qu'effectivement, le jeune va se construire, le jeune va découvrir par lui-même, mais il faut qu'au préalable, donc, on le prévienne de qu'est-ce qui va l'attendre. Et c'est pour toute chose dans la vie.
Réseaux sociaux ?
J'en ai plusieurs, donc Twitter, Insta, je suis récemment sur TikTok.
Ok, tu t'es mis sur TikTok.
Ouais, c'est ça. Et encore, je suis pas encore très... tu vois, je mets juste des vidéos, mais je fais pas de live ou des trucs comme ça, donc... Je vois que il y a certaines choses qui... Ouais, ça me plaît. Et après, LinkedIn, après, ça, c'est le réseau professionnel. Mais sinon, voilà, c'est déjà pas mal.
Bah, tant qu'on est là-dessus, pourquoi être autant présent sur les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est un moyen aussi pour toi de te rapprocher, entre guillemets, de la population ? Je le disais en intro, c'est important pour toi de parler avec les gens et de faire découvrir ton métier.
En fait, le truc, c'est que moi, sur les réseaux sociaux, j'ai... Comme tout le monde, je crois, j'ai commencé par faire Facebook et tout. Donc, c'était vraiment comme ça, de manière... Oui, anodine. Après, là où ça a vraiment pris, c'est que je pense que Ça a commencé de manière toute bête quand souvent, je suis fan de l'émission des Grandes Gueules d'RMC. Et souvent, j'appelais souvent par téléphone, c'est le 3216 et tout. Et je me suis fait remarquer dans cette émission par rapport à mes positions, etc. et tout, le fait d'expliquer mon métier. Et pourtant, je suis pas un policier syndiqué, sachant que nous, policiers lambda, on n'a pas le droit de parler sans évidemment autorisation, etc. Et à côté de ça, si tu veux, j'ai cassé les codes de la communication police. Parce que, évidemment, je suis policier de terrain, j'ai un vécu. Et en fait, à ce moment-là, je me suis fait remarquer. J'ai été invité à l'émission de Thierry Ardisson qui s'appelait à l'époque Salut les Terriens.
Salut les Terriens.
Et ça a fait un gros buzz. C'était un buzz et tout. C'était à l'époque, j'étais face à Yann Moix, Laurent Baffy. Il y avait Frédéric Ploquin. Je devais présenter un livre. C'était pas mon livre, mais celui de Frédéric Ploquin. C'était La peur doit changer de camp. Mmh. Et tu avais une connaissance, peut-être qu'on connaît, c'est Barb Panther.
Oui.
Et qui. Juste une petite anecdote, parce que Alma Mikanouté, que je salue, sachant qu'on a été au même lycée ensemble, au lycée.
Avec Alma Mikanouté.
Alma Mikanouté, elle était au LP Barreau à Corvisart. Donc, il s'en rappellera. Et donc, voilà, et après, ça a pris un buzz, et à ce moment-là, les gens ont dit waouh et tout, parce que voilà, il y avait Yann Moix qui nous avait traité, nous, les policiers, on chie dans notre froid quand on rentre dans les cités. Donc, moi, je lui ai répondu, et là, à ce moment-là, ça a pris. Et on m'a dit, ouais, pourquoi tu vas pas sur les réseaux sociaux pour essayer d'expliquer un petit peu ton métier. Et là, voilà. Donc, c'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé à me.
Que tu t'es arrivé sur les réseaux sociaux.
Et évidemment, c'est quand tu arrives sur les réseaux sociaux, bah, c'est, j'ai envie de te dire, c'est la jungle. Hein. C'est un terrain de guerre, mais miné, quoi. Donc, il faut que tu essayes d'avoir les bons mots, de pas avoir un mot qui sort du buzz. Et aussi, je me suis dit que, mais à un moment donné, pourquoi il faudrait pas essayer d'apporter de la contradiction sur des gens qui pensent avoir toutes les vérités. Je pense que j'estime pas avoir toutes les connaissances ou bien avoir la vérité vraie, mais j'ai un vécu, j'ai une expérience, elle est reconnue avec beaucoup d'humilité. Les gens me connaissent, savent qui je suis, donc je me dis, mais oui, effectivement, je peux parler de mon métier. Évidemment que je dis pas que tout est parfait, mais voilà, une connaissance du métier.
Est-ce qu'on peut venir à la genèse d'Abdoulaye, parler un peu aussi de ton enfance? Tu le disais, t'es né à Ivry, dans le 94, tout près d'ici. Dans mes souvenirs, tu pars très tôt au Mali, à l'âge de 2 ans.
Oui.
Comment ça se passe tout ça? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance, ta jeunesse?
En fait, mes parents, donc immigrés maliens, donc ici, donc papa, livreur pizza, il a fait ses études à la Sorbonne. Maman, faisait des boulots donc du côté des aéroports, donc Roissy et Charles de Gaulle, donc femme de ménage, etc. Et donc, évidemment, tu sais, dans la communauté malienne, donc, tu sais, les gens se connaissent et tout, donc les parents se sont rencontrés, et donc ensuite, ils se sont mariés, ils m'ont eu. Et donc, papa a eu une opportunité au Mali, donc il a été le premier représentant de la marque Carrera. Carrera de vêtements à l'époque, donc pour être représentant Afrique, donc là-bas. Donc, il a ouvert sa petite boutique dans le centre de Bamako. Et à ce moment-là, donc, on est rentré. Si tu veux, j'avais que 2 ans. Donc, je quittais la France et tout. Et voilà, donc j'ai fait de 2 ans jusqu'à mes 13 ans. Donc, je suis revenu à l'âge de 15 ans en France.
Et comment ça se passe, cette enfance au Mali? Est-ce que tu peux nous parler un peu du Mali?
Alors, Mali, pour moi, c'était c'était une inconnue. Mais après, tu sais, quand je suis arrivé très jeune, donc c'est comme si j'étais né là-bas, on va dire, tu vois. C'est pour moi. Donc, vraiment, tout ce qui était les us et coutumes. Après, quand tu arrives, tu es vu comme le petit français, tu vois. Quand je dis le petit français, c'était le petit qui venait d'un endroit qui était, on va dire, aisé. Pardon. D'un endroit aisé, qui n'avait pas connu les difficultés. Et pourtant, quand je suis arrivé, mon père n'avait pas encore sa maison. Donc, on a aménagé, en fait, chez mes grands-parents, pour ceux qui connaissent, à Medinakoura. Donc, qui est vraiment le cœur névralgique de Bamako. Vraiment le centre-ville. Comme on est la famille Kanté, donc une très grande famille qui est connue là-bas. On a vécu chez mes grands-parents. Donc, c'était pas facile, notamment pour ma maman, parce que. Allez, pour vraiment, vraiment. C'est vraiment intimiste, hein, là, le truc. Oui. Hein, parce que je l'ai jamais dit. C'était difficile pour ma mère parce qu'elle n'était pas forcément. Comme elle était claire, elle était peul. Donc, du coup, elle n'était pas faite pour être avec mon père. Donc, tu sais, t'as toujours cette espèce de concurrence avec les tantes et tout qui font comprendre que t'es pas à ta place et on va te faire galérer et tout ça, quoi. Et maman a tenu. Maman a tenu. C'était difficile, mais elle a tenu quand même. Et comme mon papa a eu sa maison, donc du coup, on a aménagé du côté derrière Faladje. Donc, c'est un quartier en banlieue de Bamako. Et oui, c'était une enfance qui était. Après, j'ai eu ma fratrie, tout ça, parce que je suis issu d'une fratrie de 7.
De 7, et c'est toi l'aîné des 7.
C'est moi l'aîné des 7, dont un de mes petits frères qui est décédé en 2003 à l'âge de 18 ans. Donc, du coup, ça a été ouais, quelque chose où j'ai eu une enfance vraiment où j'ai un par des parents qui étaient aimants, qui m'ont inculqué des valeurs, donc une éducation, on va dire, aussi à l'africaine, sachant que, bah, sans oublier aussi l'éducation à l'européenne. Donc, j'ai eu vraiment les deux cultures et c'est ce qui m'a renforcé.
Et c'est quoi ta relation avec ta maman? Quelle était ta relation avec elle? On le voit là
Ma
quand t'en
maman,
parlais.
en fait, c'est quelqu'un qui a toujours eu vraiment une très 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 grande responsabilité parce que moi j'ai mon papa, bah, après tu sais, il a réussi dans la vie et tout et il a beaucoup voyagé, il n'était pas forcément présent. Papa n'était pas forcément présent et on se tous tout reposait sur ma mère quoi. Et je peux te dire que oui, c'est quelqu'un qui je dois énormément et aussi elle a eu une force un courage qui pour moi n'est pas donné à toutes les mamans parce que quand tu dois gérer 7 enfants et tu gères t'es toute enfin, toute seule tu dois gérer, c'est quand même pas évident. J'ai 2 enfants, je peux te dire que c'est pas évident, mais là 7, tu dis que franchement c'est elle a vraiment fait beaucoup beaucoup à essayer de nous donner la meilleure éducation possible et je pense que voilà, c'est quelque chose que franchement je ne la remercierai jamais assez.
Est-ce qu'il y a un trait de caractère chez elle ou une phrase, une citation, peut-être quelque chose qu'elle faisait qui t'a marqué et qui t'accompagne encore
Alors
aujourd'hui
le
au
trait de
quotidien?
caractère, c'est que je sais pas comment dire, je sais pas si on peut dire trait de caractère, c'est que bah oui, c'est elle était vraiment voilà, elle faisait le rôle de papa et de maman aussi hein, donc elle était toujours là et donc caractère aussi bah oui, c'est un caractère fort aussi, c'est une maman hein, donc du coup elle essayait de vraiment de nous inculquer les valeurs, l'éducation à l'africaine, donc vraiment stricte aussi et je pense que oui, pour moi c'est plus ce trait de caractère que j'ai gardé que je garde.
Et comment elle se passe cette enfance au Mali? Est-ce que tu vas à
Oui.
l'école? T'es scolarisé?
Je vais à l'école donc la maternelle. Ensuite, après, j'ai la chance aussi d'aller à l'école, ce qu'ils appelaient l'école Liberté, Liberté A. Donc, c'était une école franco-malienne. Du coup, j'ai eu la chance à l'époque d'y aller. Donc, c'est pour ça que ça me rapprochait un petit peu aussi voilà, de la culture française et tout. Et c'est vrai que voilà, l'école se passe bien. J'étais pas non plus un élève. On va dire, tu sais, un top d'élèves, quoi, tu vois. Donc, j'étais vraiment dans la moyenne, quoi. Donc, 10, 11 de moyenne et tout. Voilà, je voyais pas plus. Mais franchement, non, ça se passait bien. Et si tu veux, j'avais la chance aussi de voir vraiment des enfants de coopérance, qu'on appelait les coopérantes, qui venaient de d'autres pays et qui étaient en ce genre d'école, tu vois. Donc, ça permet de voir vraiment, je pouvais côtoyer des Béninois, des Japonais, des Belges, des Suédois. Des Camerounais, tu vois,
Oui,
donc vraiment, c'était
c'est...
vraiment un multipote, quoi, tu vois.
Oui, il y a une mixité vraiment...
Et ouais, ça, là, vraiment, la vraie, ouais, ça, oui. Et là, je peux te dire que c'était criant, quoi.
Et en dehors de l'école, tu as des passions, des hobbies. Qu'est-ce qu'on fait dans les rues de Bamako?
Dans les rues de Bamako, bah, en fait, la tradition, c'est qu'il faut savoir qu'à Bamako, bon, la semaine, tu vas à l'école, donc c'est le matin. Donc à l'époque, hein, c'était de 7h, de 7h à comment ça s'appelle, jusqu'à 16h. Ensuite, après, bah, quand on rentrait à la maison, donc du coup, tu avais le goûter. Et après voilà tu joues au foot l'après-midi après les devoirs tu joues au foot devant l'entrée avec tes voilà avec le petit terrain là qui tu en, la terre rouge etc tu joues avec tes potes et tout les cousins le samedi quand c'est le week-end quand ça arrivait le week-end systématiquement je sais que on allait ce qu'on appelait la pâtisserie je pense que tu dois connaître la pâtisserie c'est ce sont un peu l'équivalent de fast-food et t'allais chercher ces fameux pâtés que tu mangeais, tout ça, etc. et tout, voilà. Et ça, tous les samedis, on allait comme ça en
C'était une
famille.
tradition, entre
Ouais,
guillemets.
ouais, ouais. Et le dimanche, c'était le dimanche, bah, le jour de Tcheb. Hein. Donc le Tcheboudienne, pour ceux qui connaissent, un plat sénégalais à base de riz et de poisson. Et voilà, c'était, voilà, on mangeait ça le dimanche et tout. Et voilà.
Une enfance heureuse, en fait, finalement, c'est...
Oui, bah,
Faut
oui, mais c'est
une...
franchement, oui, j'ai pas eu une enfance entre guillemets malheureuse. C'est après que quand je suis, après, je sais pas quand on va aborder le sujet, c'est quand je suis arrivé en France à l'âge de, ouais, de mes 14-15 ans, tu vois. Donc, j'ai été élevé par la grande sœur de ma mère.
Du coup, toi, t'arrives en France
Seul,
seul, tes
ouais.
parents restent...
Mes parents restent parce qu'en fait, si tu veux, à un moment donné, comme le Malien est un migrant, un immigré en fait. Mon père a estimé que voilà, ça aurait été bien que j'aille faire le reste de mes études
En
en
France.
France, tu vois. Mais à la base, ce que les gens ne savent pas, c'est que je devais pas rester en France. J'ai fait un voyage avec mes parents, avec ma petite sœur. On est parti aux États-Unis et y a un des cousins comment dire, à mon père qui qui voulait me recevoir en fait, en gros, pour que je puisse rester et faire le reste de mes études et peut-être travailler là-bas. Et ma mère a paniqué, en fait, elle a dit non, en fait, finalement, il va aller en France parce que c'était plus près du Mali
Okay, ouais.
que les États-Unis. Et donc, sinon, tu vois, j'aurais.
Tu t'aurais été un policier américain.
Enfin, un policier américain, je sais pas, mais en tout cas, j'aurais été aux États-Unis.
Vécu là-bas.
Donc, tu vois, ça s'est joué au fait sur le fait que maman. Et comme la famille était un peu plus
en ici, France,
en France
que...
et tout, que, voilà. Et ensuite, après, quand je suis arrivé ici, donc j'ai vécu dans le 95, donc du côté de Cergy, donc la grande sœur de ma mère, qui n'est plus, qui, elle, je considère un peu comme ma deuxième mère, en fait. Parce qu'elle, c'est elle qui m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ce que je suis aujourd'hui, un petit peu.
Mmh.
Et là, c'était pas facile. Là, c'était pas facile parce que c'était, comment dire, c'était femme de ménage, en fait, dans les grands palaces et tout. Donc, vraiment, femme qui se levait tôt le matin, 5h30 du matin. Elle devait gérer à la fois mes cousins, qui étaient mes frères, donc elle avait 3 enfants aussi. Donc, on était à l'ambiance, tu sais, dans un petit appartement avec... un appartement, on va dire, ambiance lit superposée, tout ça, etc. C'est l'ambiance galère, mais franchement, c'était des super bons moments. Et ouais, donc après, c'était quelqu'un qui m'a vraiment appris la rigueur. Voilà, toujours être à l'heure, être en avance au lieu d'être à l'heure. Tu vois, des trucs comme ça.
Ouais,
donc,
c'est ce qu'on dit, être à l'heure, c'est déjà être en retard.
Exactement, c'est ça. Et... elle n'a pas eu une vie facile. Elle n'a pas eu une vie facile. C'était quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés, notamment mon oncle aussi qui n'est plus. Et femme battue, l'alcoolisme et tout ça, etc. Et tout. Et mais malgré tout, elle a quand même tenu et elle nous a quittés. Voilà, il y a l'année dernière. Et je pense que c'était quelque chose qui m'a
beaucoup touché. Est-ce que ça marque un changement chez ta personne, dans ta personnalité? Parce que est-ce qu'on change vraiment à passer un certain âge?
Oui, on passe un certain âge parce que tu prends en maturité, parce que généralement, quand tu perds quelqu'un qui t'a appris beaucoup de choses et tout ça, etc. Et pour te dire que tellement qu'elle a compté pour moi, c'est que ma première fille a supporté ton prénom. Donc, si tu veux, ça a été quelque chose qui, pour moi... Ouais, c'est pas facile d'en parler encore parce que, tu vois, c'est quelqu'un qui a coûté beaucoup pour moi dans ma vie.
Et c'est à cette période-là de ta vie que tu décides un peu de tourner vers les métiers
Alors, si tu veux, donc j'ai pas trop d'objectifs dans la vie. Si tu veux, à ce moment-là, t'as beaucoup de choses. Elle était derrière, elle était toujours sur mes côtes. Alors, elle était, elle était chaude sur moi. elle était chaude sur moi de fou. Mais après, après coup, je comprenais pas et tout, mais là, tu vois,
Après, il y a aussi cette responsabilité, on te confie à quelqu'un, surtout chez nous, dans nos cultures.
Exactement,
où on te confie,
tu vois. C'est clair, non, mais c'est pas facile.
Hein. C'est une mission qu'elle
c'est
a
une
aussi.
Mission elle avait une mission pour elle, tu vois, c'était une mission et nous, je le comprenais pas. Mais après, quand j'ai compris sa manière d'être et tout, j'ai dit, ouais, effectivement, je comprends pourquoi elle a été comme ça. Je comprends pourquoi aujourd'hui, elle a été comme ça. Et disons que j'étais pas un élève de ouf, tu vois. Et si, à un moment donné, j'ai un oncle à moi qui n'a rien à voir, mais qui était dans le cercle familial, qui voyait que je galérais un peu dans les études. Il m'a dit, toi, tu vas devenir militaire. Moi, je regarde comme ça, tu connais, hein, tu sais, toujours les oncles qui viennent comme ça, qui viennent ramener leur bouche, on leur a rien demandé, mais ils viennent. Et au final, un samedi, il m'a dit, viens avec moi et tout. Donc, on est parti dans le 12e au CIRPA, vers à côté de Nation. Vers Porte de Vincennes, pardon. Et à ce moment-là, donc, il m'a emmené devant un militaire et tout, donc un centre de recrutement. Et voilà, donc voilà. Maintenant, choisis ce que tu veux faire. Moi, je vois comme ça, et le mec, il est là, un peu bourru, tu vois. Et il me dit, ouais, donc vous venez pourquoi? Je dis, j'ai vu qu'il y avait l'armée de terre, il y avait les trois corps, il y avait l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air. Moi, j'ai pris la marine, comme ça par hasard. Il me dit, très bien, vous remplissez le formulaire et tout, voilà. 15 jours après, je reçois ma convocation pour aller à la base de Hourtin. Du côté de Bordeaux.
Entre temps, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de. Enfin,
je suis rentré dans le mood.
T'es dans un processus ou c'est ça
y est. C'est. Tu sais, des fois, t'es là comme ça, tu dis, allez,
tu
vas-y.
Tu te laisses aller parler.
Je me laisse aller, je dis, vas-y, c'est quoi, vas-y. Pourtant, je dis, attends, mais je sais pas.
C'est pas ce que tu voulais faire.
Tu sais, t'arrives à un âge, dans l'adolescence, où je pense que tu le vois, où on compte poser la question, qu'est-ce que tu veux faire?
C'est compliqué aussi. J'ai beaucoup d'invités qui parlent de ça.
Voilà,
oui.
C'est à part certains qui, vraiment, dès le plus jeune âge, je prends l'exemple de mon petit frère, qui lui, dès son plus jeune âge, l'âge de 5 ans, dès qu'il a dit avion, mais Dieu a fait qu'aujourd'hui, maintenant, il est pilote. Il est pilote de ligne, tu vois. Donc, c'est rare, en fait, que dès le départ, tu as une conviction. Moi, j'en avais pas. C'est après que je me suis approprié cette conviction. Alors, militaire. Donc, 15 jours après, je reçois ma convocation pour aller à Hourtin. Et donc, j'y vais et tout. Donc, je m'en souviens encore, c'était mon papa et mon oncle qui me raccompagnent à la gare à Saint-Lazare. Mon père, dis-toi bien, je ne l'ai jamais vu pleurer. Je n'ai jamais vu pleurer mon père. Et encore, tu sais comment c'est dans notre culture, c'est que nos parents ne pleurent pas, on ne les voit pas pleurer. Et à ce moment-là, quand je prends le train, je comprends rien ce qui se passe. Je rentre dans un train, je me dis, mais je vais où? Et là, d'un coup, le papa, il me fait la bise et tout. Après, il dit courage et tout, voilà. Je monte dans le train et à ce moment-là, le train commence à partir et je vois que mon oncle, en fait, il met une tape à papa, tu vois, comme ça et tout. Et je vois papa en train de... Mais je vois pas pleurer, mais je sais qu'il est en train de pleurer. Et là, je me dis, ah ouais. Là, c'est...
Mais est-ce que là, toi, dans sa tête, tu dis là où je vais, c'est chaud?
En fait, c'est marrant parce que là où je vais, je me dis, je prends pas conscience, en fait, dès le départ.
Okay, ouais.
Tu vois, je dis, je vais quand même, je m'engage en tant que militaire dans la marine nationale et j'ai que 17 ans et 6 mois. Et je me dis, mais attends, c'est chaud quand même. Mais bizarrement, je me dis que, en fait, dans le train, t'avais des personnes, on se regardait. On était tous un peu dans le même
état d'esprit.
Dans le même état d'esprit, on se connaissait pas. Et à ce moment-là, tu vois, les gars qui étaient avec moi, je pensais qu'on allait dans la même destination. Ça fait un peu de destination finale, tu sais. Mais en fait, je dis d'accord, ok. Et là, je dis ça y est, c'est parti.
Et une fois que tu arrives là-bas, comment ça se passe?
Quand j'arrive et tout, donc pareil, tu sais, tu arrives dans un endroit, c'est comme une rentrée scolaire. Hein, tu arrives comme ça, tu as un gros camion qui vient vous chercher, hop, là, tout, on arrive. Et là, dès que tu arrives à la base, t'as un militaire qui vient comme ça, et là tout de suite, bam. Ça fait un peu comme, je sais pas, pour ceux qui connaissent, qui ont des références cinématographiques, il y a le film Full Metal Jacket. Pour ceux qui voient que c'est un espèce de sergent-chef qui est assez énervé comme ça, qui commence à mal nous parler, à dire ouais, donc voilà, c'est bon maintenant, vous êtes ici maintenant, c'est fini, papa et maman, c'est terminé. Maintenant, c'est moi qui vais vous prendre en charge, et ceux qui ne sont pas contents, il est encore temps de repartir. Je lui dis, ouais, merde. J'ai dit ah ouais d'accord ok.
Où est-ce que j'ai vu?
Mais on se regarde tous en fait. Il y en avait un, je m'en souviens encore. Il était en train de trembler. Quoi. Il s'est dit oh, ouais. Il y en a qui était pas bien.
Vous devez rester combien de temps là-bas?
En fait, la formation a duré 15 jours. Et au l'étude, ces 15 jours, on était affectés dans nos bases. Donc pendant cela, c'était simple, t'arrives. Ben voilà, tu fais un parcours en fait. On te donne ton paquetage. Tu rentres dans une espèce de cabine. On essaie de prendre tes mesures, tu sais. Ceux qui avaient des cheveux, les cheveux, barbe et tout ça, tout, boum. C'est là vraiment, t'étais en mode. Voilà. Et la formation, c'était une formation militaire. Hein. Donc, lever à 6 heures, faire ton lit. Et à l'époque, si ton lit n'était pas fait, tu faisais de la tôle. Mais quand je dis tôle, c'était tu restais le week-end au lieu de rentrer chez toi. Donc, il fallait ce qu'on appelle la pièce de 5 francs devait rouler sur le lit, le bidel. Militaire, hein, militaire. Et après ça, donc 15 jours après, donc j'ai mon affectation à la base de Cherbourg. Donc on m'a demandé si je voulais être embarqué ou sous-marinier. Alors moi, j'ai pris embarqué parce que je n'avais pas envie d'être dans un sous-marin. Donc j'ai eu la chance d'être sur ce qu'on appelle un patrouilleur qui était basé à Cherbourg, un P400 qui s'appelait l'Audacieuse. Et j'ai fait, grâce à ça, donc j'étais manœuvrier et maître d'armes donc sur ce bateau. Et sur un bateau qui composait 40 personnels. Et après ça, donc j'ai fait ce qu'on appelle des missions dans toute l'Europe du Nord. Donc j'ai fait la Suède, l'Islande, le Danemark, la Finlande, les pays baltiques, etc. en mission.
Et ça dure combien de temps?
3 ans. Deux ans, exactement 2 ans et demi. Mais 3 ans.
Et comment on passe de ça au métier de policier?
En fait, c'est une continuité parce que quand j'ai fini mon contrat. En fait, on m'a demandé pourquoi tu prolonges pas. Mais je voulais faire une année sabbatique, en fait, parce que c'était pas facile. Hein. Je pense aussi que pendant cette période militaire et tout, donc quand t'es en mer et tout, tu pars 6 mois en mer et
t'es
tout.
Loin aussi, ouais.
T'es loin de ta famille et tout ça. Donc t'as droit à l'époque de passer un appel d'une dizaine de minutes par téléphone satellitaire. T'es pas tout seul, parce que les gens aussi attendent aussi derrière. Et aussi, ouais, c'était une très très belle expérience, à la fois vraiment qui m'a renforcé en tant qu'homme. Mais aussi difficile parce que j'ai vu aussi peut-être des fois l'abject aussi, notamment le racisme sur certaines choses où effectivement j'étais le seul black sur ce bateau.
Et ça se manifeste comment le racisme, si on peut en parler?
Le racisme, en fait, il n'est plus à l'époque, tu sais, où il était plus visible, où on te disait écoute, vous êtes noir, vous n'avez pas votre place là, ça sert à rien, etc. C'était plus insidieux. C'était genre, on te doublait, on va dire, tes tâches de travail. L'approche qu'on t'interpellait de manière, c'était très véhémente, genre limite comme si on parlait vraiment de manière mais mal éduquée, quoi. Et c'était un chef qui me faisait ça, tu vois, et je comprenais pas, à un moment donné, j'ai dit, mais attends, il parle mal et tout, donc, et je l'ai dit sur une interview il y a des années, qu'à ce moment-là, oui, j'étais pas bien, je voulais craquer, j'ai appelé ma mère, je m'en souviens, on était en plein milieu de la mer du Nord, et j'avais craqué, j'ai dit, maman, j'en peux plus, etc., et ma mère m'a dit, non, tu vas tenir, tu vas pas lâcher, tu vas tenir, et tu vas montrer justement que cette personne-là se trompe. Et c'est ça qui m'a donné la force de lutter contre ce racisme-là. Donc, j'ai bossé. Et quand j'avais fini ma mission, enfin mon contrat, bah, ce mec-là, en fait, qui était très véhément avec moi, qui avait ce comportement raciste avec moi, dis-toi bien qu'à la fin, il est venu lors de mon débarquement. Débarquement, c'est quand tu quittes le bateau. Me saluer et me dit, ouais, Abdoulaye, je voulais te dire un truc. Merci de m'avoir fait tromper sur des personnes comme toi. Et je te respecte et t'es quelqu'un de bien.
Est-ce qu'on considère ça comme une victoire?
Plus qu'une victoire, en fait.
À cette époque-là, t'as peut-être 20-21, 21.
Non, j'avais plus âgé, j'avais, hein. 10, j'avais 19. J'avais 19 ans. Et là, évidemment, le gars, c'était un sale con. Tu portais même ça à sa tête. Mmh. Et je pense que... Parce que la meilleure manière aussi, c'était de me dire que non, je vais pas partir et laisser ma place. Parce que j'ai autant ma place que cette personne-là.
Que les autres.
Que les autres. Et il faut s'imposer. Et ne pas accepter en gros, d'être dans cette forme de posture victimaire, en fait. C'est comme ça, en fait, que moi, ça m'a forgé. Et les gens s'étonnent, ils me disent, ouais, mais tu t'en rends compte et tout. Et là, je dis, oui, mais est-ce que pour autant tu dois partir? Est-ce que pour autant tu dois laisser ta place?
Ouais, c'est une question qui fait débat. Souvent, les gens, ils te disent, bah, quand t'es pas accepté quelque part, faut claquer la porte et partir.
Mais au nom de quoi tu serais pas accepté? Parce que par rapport à ta couleur de peau? Par rapport au fait que parce que l'autre, parce qu'il t'aime pas, donc il faut que tu partes?
Bah, mais est-ce qu'on peut l'entendre aussi que c'est pas forcément facile parce que c'est une force de caractère aussi?
C'est une force de caractère, non, mais je peux comprendre aussi, mais ça veut pas dire que je comprends pas aussi que les autres y partent et tout, hein. Mais il faut avoir cette force de caractère. Je pense que quand tu es face à une forme d'injustice, pour moi, le racisme, c'est une forme d'injustice parce que la haine de l'autre et tout ça, le rejet de l'autre, pour moi, c'est une forme d'injustice. Je vois pas pourquoi je devrais partir parce que l'autre, juste, il m'aime pas parce que son visage ou sa façon d'être ne me revient pas. C'est quelle façon légitime?
Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que ça permet aussi de resituer un peu ton état d'esprit. Ouais. Comme on le disait en début d'émission, t'es beaucoup raillé sur les réseaux sociaux, beaucoup moqué, ouais, insulté de traître, de trucs. Et c'est bien aussi d'avoir
cette vision-là. Je pense que les gens... Après, tu sais, les réseaux ont toujours une vision biaisée de la personne en elle-même, tu vois. Et moi, en fait, ce que j'ai toujours essayé d'expliquer sur les réseaux, c'est très difficile, mais de dire que, bah, bien évidemment, tout quand il y a une forme de racisme ou quelque chose comme ça, et qui est avéré, et évident que moi, jamais de la vie, je me tairai. Je ne vais pas non plus laisser me faire insulter ou insulter quelqu'un, et tout ça, etc., à raison de sa couleur de peau et tout. Et ça, pour moi, c'est logique. Et j'explique ça aussi aux jeunes. C'est qu'à un moment donné, il faut sortir de cette posture, de me dire, bah, ah, parce que je suis noir ou arabe, parce qu'on ne m'aime pas, donc ça y est, je vais partir et tout. Ben non. Si tu as les compétences, si tu as les compétences où tu sais que ce truc-là est fait pour toi. Si je prends l'exemple du métier de policier. Le métier de policier, les gens me disent « Ouais, mais bon, t'es noir, t'as pas la légitimité d'être policier. » Mais je dis « Mais et pourquoi? Au nom de quoi ?» Et je dis un truc, et je le poste en plus, volontairement. Parce que t'as des gens qui ne parlent pas de... J'aime pas le terme communauté, mais des personnes qui sont issues d'immigration qui veulent épouser ce genre de métier. Mais ils n'osent pas, tu sais pourquoi? Parce que de peur d'être trahi, de peur le poids de la culture, de peur de dire « Ouais, mais bon, t'es policier, tu vas trahir les autres et tout ça, etc. » Bah écoute, non. De manière humble, je veux dire très sincèrement, je pense que j'ai suscité des vocations. J'en suscite encore. Pour moi, c'est être un facteur d'identification pour des personnes qui n'osent pas. Mais pour moi, c'est beaucoup. Et je ne parle pas que pour le métier de policier, hein. Je parle pour d'autres métiers. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit que « Ouais, mais bon, c'est pour les autres, c'est pas fait pour moi. » Bah écoute, non. Si tu vois quelqu'un qui te ressemble et qui te dit « Mais si lui, il le fait, mais pourquoi pas moi ?» C'est ça, en fait, l'état d'esprit.
Parce que je lisais aussi une interview de toi hier, en faisant des recherches un peu pour préparer notre entretien d'aujourd'hui, une interview dans laquelle tu disais que c'est un jeune qui veut faire ce métier-là et qui dit « J'ai peur de l'annoncer à mes parents. Mm-hmm. » Et dans l'interview, tu parles de sorte de coming out. C'est comme si c'était un coming out pour lui de dire à ses parents de devenir policier. Mais comment toi aussi, est-ce que, enfin, et à un moment donné, si tout le monde a une, enfin pas tout le monde, mais si une majorité des gens a une défiance envers ce métier-là, envers ce corps-là, est-ce que c'est pas aussi qu'il y a un problème avec le métier? Comment on fait pour changer cette défiance-là sans aller dans la confrontation? Parce que ça peut pas être toujours, il y a que des méchants, il y a que des gentils.
Je l'entends totalement que c'est normal que les gens aient une forme de défiance parce que quand tu n'expliques pas tes actions, forcément tu es mal compris. Et ça a été le grand problème de notre institution pendant, on va dire, plusieurs années. Mais après, il y a eu des choses qui ont fait que, ben, je dirais pas moi parce que ça va faire trop le mec qui se la raconte, mais je pense qu'il était nécessaire aussi à un moment donné de faire bousculer les choses. Il y a maintenant 30 ans, maintenant, quand tu regardes le visage de la police nationale, maintenant, ça a beaucoup changé. Ce n'est plus, j'étais un peu caricatural, ouais, le vieux Robert et tout, qui est dans le commissariat, le gros beauf et tout, tu vois, et qui limite, dès qu'il voit quelqu'un rentrer, vas-y, dégage, et tout ça, c'est fini, ça. C'est fini maintenant, ça a beaucoup changé. Je ne dis pas que tout est parfait, mais en tout cas, c'est largement mieux que ce qui a été, que ce qu'on connaissait il y a une trentaine d'années. Vraiment. Ça, vraiment. Maintenant, après, ce qui concerne la défiance, oui, c'est logique. Moi, si moi je te connais pas, j'apprends pas, comment dire, j'apprends pas à me faire connaître par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je suis, et que si je vois certaines choses, certaines actions qui sont commises à l'extérieur, et que déjà d'une, je sais pas comment tu fonctionnes, mais moi je vois ça, en tant qu'être humain, bien évidemment, je serais choqué. Je serais choqué, et après je vais généraliser. Je vais essentialiser, je vais dire, ouais, mais laisse tomber, ils sont tous comme ça, etc. Et par contre, il était nécessaire de peut-être d'aller à la rencontre de ces publics qui peut-être ne te connaissent pas et de leur parler franc. Chacun à son niveau. On va parler de une petite anecdote. Il y a un jour, le directeur général de la police nationale me convoque parce que tu sais, au moment où je commence à prendre, on va dire, un peu au niveau des médias et tout ça, etc. Je me dis, ouais, putain, je vais me faire défoncer et tout. Et en fait, il me dit, ouais, monsieur Kanté, vous me faites chier, mais j'aime ce que vous faites. Le directeur de la police nationale, celui qui dirige plus de 150 000 fonctionnaires, te dit ça. Tu sais pas où te mettre. Il dit, ouais, que vous vouliez ou non, maintenant, il y a ce qu'on appelle, vous avez vu une personnalité publique. Il y a la parole institutionnelle, c'est-à-dire lui, la parole des syndicats, et il y a la parole d'Abdoulaye Kanté. J'aurais jamais cru, moi, en tant que, tu vois, policier, enfant d'immigrés d'origine malienne, et comment dire, avoir, on va dire, cette espèce de je dirais pas d'aura, mais que ma voix compte.
Mais est-ce que justement, je vais un peu aller te chercher aussi,
Vas-y, vas-y.
pour le dire aux gens aussi, qu'il y a pas de, enfin, on s'entend bien plutôt en dehors. Et franchement, moi, je le dis
Il y a un
beaucoup.
discours de sincérité entre nous,
Oui,
je vois,
et
il n'y
je
a
le
pas
dis
de.
beaucoup à mes amis. Même hier encore, je m'étais sur Twitter, je disais, ouais, je reçois Abdoulaye Kanté. Les gens ils me disent, moi, je l'aime beaucoup en dehors, en dehors de certaines de ses déclarations. Mais l'humain, j'apprécie d'échanger avec lui. Est-ce que le fait que le directeur général de la police aussi te dit ça t'oblige pas toi aussi derrière à avoir une position et un discours, un propos qui fait qu'il est vraiment beaucoup pro-police? Parce que là, tu te dis, ah, je suis validé en plus par mes
Alors,
pairs,
je suis
faut
validé.
pas que
Enfin,
je
non,
sorte
mais en
de cette
fait, c'est pas
validation.
que je suis validé, c'est que je suis pas porte-parole non plus de la police nationale. Tu vois, il y a des gens qui sont payés pour ça. Moi, je suis pas payé pour ce que je fais. Les gens me disent, ouais, mais c'est quoi ça? Des bénévoles et tout. Oui, j'assume que je suis bénévole, mais en fait, tu sais, je pense que chacun dans nos postures, que ce soit policier, médecin, journaliste ou quelque chose comme ça, je pense qu'évidemment, on connaît nos métiers, entre guillemets, et que quand il y a des choses qui se disent et qui ne sont pas la vérité, bah excuse-moi, tu vas pas rester comme ça, te dire bah ne rien dire, tu vois. Et je dis pas que je valide tout ce que fait mon institution. Je le valide pas. Il y a certaines choses que sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais après, il faut savoir l'expliquer. Après, effectivement, je vais pas non plus parce que tu sais sur les réseaux, tu sais comment c'est. Dès qu'il se passe, c'est par exemple si, par exemple, que je sais pas, quelqu'un a fait pipi à côté, limite. Alors Abdoulaye Kanté, vous avez une réaction. Je suis pas ministre de l'Intérieur. Tu vois, je suis pas le directeur de la police nationale. Je suis une des voix, effectivement, de la police nationale, mais pour autant, je n'ai pas non plus un avis sur tout, tout.
Mais dans ton discours, il n'y a pas la peur de froisser la hiérarchie. À chaque fois que toi tu parles, il n'y a pas cette crainte
Mais tu sais
de.
que je prends des risques, moi, en fait, à chaque fois que quand je prends la parole.
Mais ça, c'est intéressant aussi, ouais, de le dire
Je mets les
pour.
gens ne savent pas, mais moi, je prends des risques parce que, tu sais, je pense que c'est comme, par exemple, tu travailles dans une entreprise et
Oui.
qu'effectivement, il y a aussi le devoir de loyauté. Moi, je suis soumis au code de déontologie. Et le code de déontologie, il est à la disposition de tout le monde. Tout le monde peut consulter. Tu vois? Donc effectivement, il y a un devoir de loyauté. Ça ne veut pas dire que quand il y a quelque chose qui me dérange, bah effectivement, je vais exprimer à ma manière, mais pour autant, il y a des enquêtes en cours, il y a des trucs comme ça. Je ne vais pas me situer à des fois quand il y a une enquête en cours, me dire ouais, je ne vais pas faire l'enquête avant l'enquête. Par exemple, s'il y a une dinguerie qui se passe, quelque chose comme ça, moi, de mon avis perso, bien évidemment, je pense que oui, c'est quelque chose qui est grave. Mais pour autant, on est en France, on est dans un pays où, effectivement, il y a la présomption d'innocence. Tant que la personne n'est pas condamnée définitivement, ben, tu ne peux pas émettre un avis comme ça.
Et si tu n'étais pas policier, est-ce que ce serait la même réaction? Est-ce que ce serait tout pareil?
Évidemment. Bah, ah, si je ne suis pas policier, bah...
Par exemple, sur, prenons une affaire, on prend l'affaire Naël, c'est comme ça qu'on s'est connus. Je t'avais interpellé sur Twitter, sur ex-Twitter à l'époque. Est-ce que quand tu interviens et que tu dis, bah voilà ce que ça crée, les refus d'obtempérer, etc.
Bah parce qu'il y a eu un contexte, alors, tu vois, alors, quand je dis contexte, t'as vu comment c'est sur les réseaux, avec les contextes et tout ça, et comme ça qu'on m'appelle. Je vous dis, tous les surnoms que j'ai, mais bon, c'est pas grave, ça après, j'ai l'habitude. Mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que ça répondait aussi à un espèce de contexte, parce que j'ai essayé de, à la fois, parce qu'il y avait forcément une émotion. Vraiment légitime, parce que quand un gamin de 17 ans meurt personne ne veut, veut qu'un gamin de 17 ans meure et tout. Mais moi, je partais du principe que c'est comme si, moi, en tant que père de famille, tu vois, ben, je me dirais que, mais à un moment donné, mais pourquoi, en fait, ne pas t'arrêter? C'est ça que je veux dire, en fait, ce que j'essaie d'expliquer aux jeunes. C'est que, peu importe l'issue, c'est que tu sais que à un moment donné, ça sert à rien de faire des courses-poursuites, ça sert à rien de ne pas obtempérer, tout ça, parce que, au final, tu peux à la fois te faire tuer ou mourir. Mais tout de suite, les gens ont compris. Ouais, mais on sait très bien que les policiers vont tuer. Mais non, c'est que tu vas prendre ta garde à vue et tu vas ressortir. Si t'es mineur, tu vas ressortir. On sait comment ça se passe, tu vas ressortir. Mais au moins, t'es en vie. Et ça, la vie, pour moi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix.
Du coup, la réaction aurait été la même, que tu sois policier ou pas, c'est le...
Ben, parce que c'est une réaction de bon sens. Moi, pour moi, je pense que j'essaye. Après, on a une éducation où on y a une forme de respect de l'autorité. Je pense qu'à mon époque, et voilà, en Afrique, alors je peux te dire, hein, moi, le professeur, là, c'est clair que si on doit parler d'éducation d'avant et de maintenant, je peux dire que là, ce serait compliqué.
Oui, c'est...
Là, dès que, par exemple, le professeur, il te disait que quelque chose est de manière véhémente, ben, là, tu te taisais et tu faisais, quoi, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement, on est rentré dans une ère où l'autorité n'est plus respectée. Certains même ne respectent même plus leurs parents. Alors, s'ils ne respectent pas leurs parents, comment tu veux qu'ils respectent aussi l'autorité, que ce soit policier, pompier, médecin, etc., tu vois.
Et quel est le rapport de tes parents vis-à-vis de ce que tu fais en tant que policier? Comment ils ont pris le fait que tu sois rentré dans la police? Et surtout le rapport
mon père était fier. Mon père était fier parce que, tu sais, les parents, ils aiment bien que tu réussisses. Et limite, ils en font même la pub, tu vois.
Mon père était beaucoup comme ça.
Voilà, c'est ça, tu vois. Donc, ils sont fiers. C'est une forme de fierté. Et moi, pour moi, je pense que c'est ça qui m'a aussi beaucoup aidé. Donc, quand tes parents sont fiers de toi, parce que tu fais à la fois pour toi, mais ceux qui t'ont mis au monde, c'est une forme de reconnaissance et tout. Après, je peux dire aussi que pour ma mère, parce que tu sais, les mamans sont toujours dans. Tu sais, avec l'esprit d'état, l'esprit des mamans, toujours cette peur qu'il t'arrive quelque chose, le fait d'être.
Ouais, c'est un métier qui reste dangereux.
Le fait d'être très exposé pour beaucoup de choses et tout ça, sachant que nous, les policiers, on est des cibles et tout ça, etc. Donc, du coup, oui, en tant que maman, bah, effectivement, c'est difficile.
Et comment tes enfants l'ont pris? Enfin, comment ils le prennent au quotidien? Parce que, autant pour les parents, il y a peut-être aussi cet éloignement un peu aussi des réseaux sociaux.
Ouais, voilà.
Mais pour tes enfants, ben, je ne sais pas, ils ont quel âge, mais...
Mes filles ont... Donc, ma grande a 13 et ma dernière a 8.
Bah ouais, celle de 13 en plus, ouais, elle est en plein dedans, là, c'est là où...
Dans l'adolescence et tout, tu vois, et je préserve au maximum mes enfants. Je préserve au maximum mes enfants parce que je sais comment ça se passe, parce que je sais que je prends beaucoup de coups. Et mes enfants sont pas, entre guillemets, armés, pas armés pour ça. Et je sais très bien que ma tête tourne sur les TikTok, les trucs comme ça et tout. Donc forcément, ma fille n'a pas les réseaux sociaux, et parce que je fais très attention par rapport à ça. Mais bon, t'as beau faire tout ce que tu veux, forcément, ils auront accès et tout. Mais bon, j'essaie de maîtriser quand même. Ouais, c'est pas forcément facile, mais j'essaie de faire en sorte qu'elles soient fières de moi, parce que je leur explique aussi pourquoi je fais ça. Tu vois que je suis pas non plus dans les polémiques et trucs comme ça, ça m'intéresse pas. Moi, tout ce que je veux, c'est effectivement la relation police-jeunesse et essayer d'expliquer vraiment quel est le métier de policier, tout en étant policier actif, parce que je reste encore un policier actif, mais aussi d'essayer d'expliquer, ben, voilà, quels sont les bons réflexes à avoir face à un policier qui soit se comporte mal avec vous, ou par exemple, si un policier vous demande de faire ci, ben, vous le faites, etc. Et tout. Donc voilà, vraiment expliquer les choses dans la pédagogie.
Et il y a cette partie-là, il y a les parents, il y a les enfants, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi les médias. Ouais. Hier, encore une fois, en préparant cet entretien, je suis tombé sur un article de l'UMA, J'aurais aimé qu'on en parle. Je sais pas si tu l'as vu passer.
Je sais pas.
Police, influenceurs, les nouvelles voix de la droite dure. Et ouais, c'est un article où tu es cité dedans.
Ah bon?
Ouais, il y a un portrait de toi. Bah, j'ai repris l'article que je te l'enverrai.
C'est vrai, j'ai pas.
Enfin, moi.
Il est récent?
J'ai pas regardé la date. Bon, ouais, faudrait que je revoie la date. Ouais, mais c'est. Enfin, moi, c'est un article qui m'a marqué, te connaissant à titre personnel. Ouais, parce ouais. que dans l'article, tu es avec quand même Bruno Attal.
Ah non. Alors, je publiquement, je te le dis vraiment. Les gens qui me connaissent, alors, savent que j'ai. Bruno Attal, en gros, j'ai aucune. Comment dire c'est pas quelqu'un que entre guillemets je respecte parce que c'est quelqu'un qui a vraiment fait des choses qui sont mais déjà d'une c'est pour ça qu'il a été révoqué il est parti d'un côté il a pris une voie politique c'est son problème et tant mieux pour lui etc mais après quand tu fais dans le couplantisme et tout ça et tu essaies d'inventer des choses sur des personnes ça par contre tu vois moi ça ceux qui me connaissent mon parcours savent ce que j'ai fait mais quand il y a des personnes qui te font, on va dire, du mal comme ça, ben, malheureusement,
ouais, je ne sais pas. Il n'y a ni connivence, ni respect de ce qu'il fait,
jamais.
Ou de ce
jamais,
qu'il peut dire.
Jamais, jamais. Et je pense que les gens, peut-être, ont compris cela, parce que certains, après, bon, je trouve même, ouais, je vais essayer de m'accoler mon nom avec lui.
Bah ouais, il y a Bruno Attal, il y a Linda Kebab, et il y a bah, trois
bon, après,
autres...
Moi, après, je le dis, Linda Kebab, c'est, pour moi, c'est comme une sœur. Hein. Je te le dis honnêtement, c'est quelqu'un que je respecte.
Si tu peux lui dire de me débloquer sur Twitter.
Il n'y a pas de souci, mais je dirais...
C'est disputé avec Linda, j'ai fait un truc qu'elle n'a pas apprécié.
Je la vois bientôt, en plus je lui dirai.
J'aimerais bien la recevoir, parce que pour être honnête avec toi, j'ai fait un tweet sur elle qu'elle n'a pas apprécié. Je ne l'ai pas insulté dans le tweet, mais je n'ai pas été sympa. Mmh. Et elle m'a envoyé un message où elle remettait en cause mon éducation. Ce n'est pas très gentil pour ma maman,
oui.
qui m'a très bien éduqué.
Après,
je peux comprendre aussi que...
Non, mais alors, tu sais, on a fait une tribune en fait, avec Linda il y a quelques années de cela. Et je pense que ça revient aussi au débat où, en fait, que, est-ce que les personnes qui sont d'origine étrangères ont la légitimité de pouvoir être policiers. Parce que certains, en fait, pensent que le fait de porter l'uniforme ou de représenter la France, c'est comme si c'était une forme de trahison à nos aïeux. C'est comme si c'était une forme de trahison, en fait, à ceux qui ont été colonisés, tout ça, etc. Mais je pense que, pour finir, vraiment, je pense qu'il faut, ça va pas dépasser cela. Tu sais, on est tous attachés. Et je veux dire, je parle en nom de Linda. Linda, contrairement à ce qu'on pense, elle est énormément attachée à ses racines. Et au contraire même, je pense qu'elle est beaucoup plus algérienne que certains qui font une espèce de pub en mode « oui, je suis un DZ et tout ça, etc. » Parce que les gens qui la connaissent vraiment dans le privé, je peux te dire qu'elle fait énormément.
Bah, je crois que c'est de ça que part notre interaction avec Linda Kebab. Je crois qu'il y a une histoire de violence policière. Elle est invitée par BFM, elle en parle. Et moi, je reprends le tweet en disant, et c'est la question aussi que je vais te poser derrière, c'est toujours les mêmes qu'on envoie au front. Et j'avais cité son nom et celui de Reda Belhadj. Je disais, dès qu'il y a un problème, la police qui met en avant
Linda
Kebab...
Ouais, c'est-à-dire quoi, les personnes, les Arabes ou les Noirs?
Mais c'est la question que je vais te poser. Est-ce que il y a une. Enfin, toi, tu le disais, personne ne t'envoie nulle part. T'es pas syndiqué.
Moi, je refuse beaucoup de médias. Moi, c'est. Les gens me courent. Enfin, après, les gens courent après, mais.
Est-ce qu'il n'y a pas une utilisation de votre personne aussi, de vos noms qui sont à connotation étrangère? Est-ce que t'as pas l'impression aussi qu'on.
Ceux qui nous appellent, ce sont les médias. C'est pas la police qui m'envoie. Moi, c'est pas. Je le dis très sincèrement, c'est pas genre ma hiérarchie qui me dit ouais Abdoulaye écoute il y a ça, il faut que tu ailles à telle émission et tout ça. Au contraire, moi on me dit j'ai forcé on va dire les communications, c'est-à-dire que moi j'y vais si j'en ai envie. C'est-à-dire que moi c'est pas ma hiérarchie qui me dit écoute voilà il faut y aller. Au contraire, la hiérarchie peut-être va plus me poser problème pour ne pas aller sur certains plateaux.
Ok, bah, c'est de là que partait mon interaction avec...
Et elle, est comme étant donné qu'elle est syndicaliste, donc après c'est son rôle, en tant que syndicat, d'aller. Ouais. Elle a peut-être plus de légitimité que moi d'aller sur les plateaux, parce qu'elle est syndicaliste et moi je ne le suis pas. Donc forcément, les gens ont tendance à se tromper sur vraiment nos, entre guillemets, quand on passe dans les médias. Et pourtant, moi je le redis encore une fois, c'est moi qui choisis. Si j'en ai envie, si je trouve opportun d'aller parler d'un sujet... d'un sujet qui pour moi est important d'expliquer certaines choses sans entrer dans le fond de l'affaire, mais j'y vais. Par contre, je connais les médias, je sais qu'ils sont beaucoup dans le sensationnalisme et tout ça, donc tout de suite et tout, t'as pas d'éléments, il faut que t'ailles juste simplement couvrir. Non.
Du coup, donc on réfute cet article de l'UMA, policier influenceur, les nouvelles voix de la droite dure. Enfin, on te qualifie du coup comme étant quelqu'un de la droite dure.
Bah, tu sais, les gens, c'est ce qui est bien, c'est que les gens ont du mal à me définir.
Ouais, chacun t'a filé un parti.
Chacun m'a filé un parti, tout ça, etc. Mais j'y tant mieux, parce que moi, voilà, je suis un service public. Donc, service public, c'est quoi? C'est que tu sers, peu importe la personne, sur la couleur, son origine, et tout, etc. Donc,
Et toi, à titre personnel, humain, parce que aussi l'émission, c'est de mettre l'humain au centre de la discussion, est-ce que c'est des choses qui te touchent, qui te blessent, qui te font te remettre en question, peut-être pas sur ce que tu dis ou ce que tu fais, mais sur ta
ben, tu vois,
propre
regarde,
personne?
on dirait que là, par exemple, il y a un tweet qui m'a, comment ça s'appelle? Qui m'a touché. Et je vais te le lire là, c'est un truc. C'est pas que ça m'a touché, mais en fait, voilà, y a quelqu'un qui m'a insulté. Je reçois des insultes tout le temps. Hein. Ça, c'est pas un problème. Mais juste en direct, là, comme ça, je vais te le montrer.
Parce que c'est vrai quoi, t'es beaucoup pris à partie toi.
Je suis pris à partie parce que je suis quelqu'un de clivant. Après, il y en a deux même. Il y en a même deux que je. Il y a tellement des fois de tiens. Bah, un mec comme ça qui me dit Abdoulaye Kanté, je te le lis, hein. Un mec qui a un drapeau algérien et tout ça, donc ouais, je sais pas si c'est un. Voilà. Abdoulaye Kanté, attention si tu joues avec les Algériens, policier ou pas policier, tu finis au bord de la mer. Reste à ta place de cannibale. N'oublie pas qu'il y a aussi des policiers français d'origine algérienne.
C'est raciste, violent.
Voilà. Et ou bien le même personne, on lui pisse dessus à ce singe. Voilà. Donc
Ouais,
ensuite.
c'est quotidien, c'est des. Parce qu'il y a même une déclaration où tu dis arrêtons de dire que la police elle est raciste, elle est juste à l'image de la société, du coup, c'est...
Mais dans l'entièreté, je te le redis vraiment de manière claire, parce que là c'est l'occasion, comme tu as dit, d'expliquer certaines choses, une bonne fois pour toutes. J'ai toujours dit, la police française, dans son entièreté, n'est pas raciste. Mais pour autant, comme dans l'ensemble de la société, il y a des comportements racistes. Il y en a. Je ne l'ai jamais nié. Il y en a. Il y a des collègues, enfin, j'appelle pas ça des collègues, des personnes qui sont dans la police, qui ont des comportements racistes. Mais ça reste ultra minoritaire par rapport aux 152 000 que nous sommes. 150 000 que nous sommes, et ça reste ultra minoritaire. Maintenant, la question, c'est quoi? C'est que si tu fais ce constat-là, qu'est-ce que tu fais? Ben, il faut dénoncer ces comportements racistes. Et ils le sont. C'est ce qui est choquant, c'est que quand les gens le voient, quand les gens ils entendent que oui, il y a eu telle ou telle chose, mais c'est que ça a été dénoncé. Certains me disaient oui, mais bon, quand on parle de l'IGPN, mais les gens, mais je défie quiconque de vraiment connaître le fonctionnement même de l'IGPN. Et je peux te dire que tout policier, tu pourras interroger tous les policiers que tu veux, mais personne n'a envie de croiser le chemin de l'inspection générale de la police nationale. Parce que le jour où tu es chez eux, là, c'est comment dire, c'est une machine.
Bah, on touche son temps, c'est passé super vite et je pense qu'on devrait même te réinviter pour avoir un plus long échange parce que c'est vraiment, t'as un long parcours et le fait que tu sois clivant aussi fait
Ouais,
y a beaucoup de
mais
choses
ça,
à
tu sais, ce
dire.
côté clivant, je vais te dire un truc, c'est quoi, je l'assume. Et pourtant, je suis pas quelqu'un de polémique, hein, parce que tu me connais même, et des gens me connaissent en dehors ou quelque chose comme ça. Moi, je porte des convictions, des valeurs, tu vois, et elles sont loin de ce du portrait qu'on essaie de tu sais. Je vais prendre un exemple. Je pense peut-être que tu dois les connaître. Tout récemment, il y a eu un podcast que j'ai fait avec Grice TV.
Oui.
Tu vois, vraiment un truc aussi pareil intimiste, parce que je suis fan de hip-hop.
Oui, Barbery chez
Non, ça c'est autre chose.
ça c'est encore
C'est autre chose. Mais il y avait Grice TV, donc tu vois, et c'était un mec qui m'a invité. Ça fait 4 ans qu'il veut m'inviter, j'ai toujours refusé. Enfin bref, j'y vais. Et là, à ce moment-là, tu vois, donc vraiment, c'est le côté intimiste. Côté un peu, on parle hip-hop, on parle de choses et tout, etc. et tout. Et à ce moment-là, donc les commentaires, et je trouve ça un peu dommage, c'est qu'il a bloqué les commentaires parce que les gens, comme toi, ont dit, mais quand c'est que tu l'invites? Pourquoi? Il n'a pas la légitimité de parler et tout ça. Il invite une journaliste que je connais même pas, qui avait le drapeau palestinien et tout, et qui me dit, ouais, ouais, mais bon, je comprends pas pourquoi on peut donner la parole à des gens comme Abdoulaye Kanté. C'est un gars qui valide les violences policières. En plus, voilà, mais je comprends pas pourquoi, en plus, il n'a pas la légitimité de parler. C'est pas un blanc. Et en plus, c'est un truc de hip-hop et tout. Mais
Ouais,
donc,
c'est...
tu comprends un peu le côté clivant. Tu dis, mais en fait, en gros, parce que je suis policier, parce que je suis un Renoi, parce que je pense pas comme toi. Et encore, en plus, c'est malhonnête. Mais du coup, j'ai pas le droit d'aller dans tous les médias. C'est pour ça que je suis content quand même que tu m'invites dans tous les médias. Et j'irai, parce qu'il y a les médias mainstream et tout, etc. Moi, je parle à tout le monde. Je parle à tout le monde.
Ce qui est important
Ce qui est
aussi...
important, parce que c'est trop facile. Si on reste toujours dans l'entre-soi, etc., ben forcément, on va te coller une étiquette. Je défie quiconque de me coller une étiquette, de me dire, ouais, ben tiens, ben lui, de toute façon, il est pro-droite, pro-CNews, pro-BFM et tout. je parle à tout le monde.
Et est-ce que, justement, pour on va finir sur ça, est-ce que ça t'a éloigné ta position clivante? Elle t'a éloigné de certaines personnes? Est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent plus être associés à toi, être amis avec toi? Ou ça n'a rien changé à ton cercle?
Tu sais, l'humain n'est pas forcément honnête. Hein. L'humain n'est pas forcément honnête. Il y en a du jour au lendemain peut-être qui partent et d'autres qui sont toujours là. Et comme je dis, tu sais, tout ce qui est important, c'est la constance, en fait, de tes idées. Parce que ceux qui te connaissent vraiment savent qui tu es, connaissent tes valeurs. Après, ceux qui ne veulent plus entre guillemets te parler parce qu'ils ont vu un truc ou parce qu'il y a eu les on-dit, bah, j'ai envie de te dire, c'est avec la conscience. Moi, pour moi, je ne jugerai jamais quelqu'un parce que on a dit des choses sur moi, mais si réellement la personne veut être sûre, on sait me trouver. Je suis quelqu'un de très accessible.
Ben merci, on finira sur ça. Merci pour cette discussion. Mais bon, moi je le dis encore, j'ai aucun problème avec toi dans la vie personnelle. Non. Je le dis à mes amis souvent.
Alors il faut savoir un truc, c'est que très rapidement, c'est que on a évidemment des divergences et tout ça, des assez prononcées. Mais il y a une seule chose au moins que voilà qui nous rassemble, c'est peut-être aussi notre culture commune.
Oui, aussi.
Mais au-delà de ça aussi, c'est qu'on se respecte et je pense aussi que vraiment, j'invite vraiment les gens à venir à ton micro et que puissent vraiment, c'est vraiment un moment qui permet aussi de pouvoir s'exprimer en dehors de tous les réseaux sociaux. Et de pouvoir, j'espère avoir le temps d'expliquer les choses. Et en tout cas, je te remercie encore.
Bah, on te réinvitera. C'est la première fois qu'une interview, pour être honnête, je reste sur ma fin. On pouvait creuser encore plus. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de finir avec un jeu, quand même, en détente. Vas-y. Et l'idée, c'est que je vais commencer des phrases et tu les finis.
Pas de souci.
Être noir en France aujourd'hui, c'est.
Ça peut être difficile, mais il faut qu'on se le rende facile.
Être un flic noir en France aujourd'hui, c'est.
C'est difficile.
Policier enfant de la République est un livre à
lire.
La politique, c'est une histoire de
c'est une histoire qui doit concerner tout le monde.
X est un réseau social qui
j'ai envie de dire qui est intéressant mais qui devient difficile.
Le Mali, pour moi, ça représente
beaucoup.
Lors de la prochaine CAN, le Mali ira jusqu'...
Ah là là, c'est...
On va l'apprendre quand
là,
même.
Là, tu as dit que c'est séquence émotion. C'est séquence vraiment émotion. Je me rappelle encore que... Je le redis encore, désolé à mes frères ivoiriens, mais vous savez très bien que vous ne pouvez jamais gagner contre nous. Vous le savez très bien.
Chaque fois ce match-là, on le rejoue 100 fois, on le gagne 99 fois.
99 fois et on gagne. Donc, j'espère vraiment que le Mali ira le plus loin possible, mais j'espère.
Si je devais dire une phrase en bambara pour décrire le Mali, je dirais... Une petite colle, là.
Ah, une petite colle. Ah, bah, c'est simple et tout. Aïna Malla.
Venez au Mali. Manger au McDo, c'est bien, mais...
Ah, évitez les clous.
On n'en a pas parlé, mais c'est l'actu du moment. J'aimerais dire à mes enfants que...
que je les aime.
Être père, pour moi, c'est...
C'est quelque chose de... C'est un honneur.
Alors, la question initiale, c'est j'aimerais dire à mon père que... Mais comme on a beaucoup parlé de ta mère et tu parlais de sa force, j'aimerais dire à ma mère que...
Merci.
L'interview du jour était...
Oh, bien.
Bah, c'était un plaisir partagé. Merci. Merci beaucoup à toi. Je le disais, en début d'émission, ça faisait longtemps qu'on n'était pas passé à l'antenne. J'ai récemment perdu mon père. On re-rentre dans une séquence émotion en début d'année 2025. Je voulais donc profiter de cette émission pour lui rendre hommage. On va essayer de ne pas pleurer. Pour lui rendre hommage, c'était vraiment un grand homme. Rendre hommage au père, au mari et à l'homme qu'il était. C'était vraiment quelqu'un de doux, de conciliant, qui était dans le dialogue, l'échange, qui cherchait toujours à savoir ce que l'autre avait sur le cœur, à comprendre comment était l'autre. C'est lui qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui. À bout de souffle, c'est une émission qui lui ressemble énormément. C'est une émission à son image, une émission où on va à la rencontre de l'autre, à la découverte de l'autre. Donc je voulais vraiment profiter de cette émission pour lui rendre hommage. J'ai jamais eu l'occasion de pouvoir l'amener sur le plateau. C'est quelque chose que j'aurais aimé faire, mais que j'ai pas pu faire. Donc voilà, vraiment, je voulais profiter de cette émission pour lui rendre hommage. Remercier également toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages durant cette période. Tous ceux que j'ai reçus sur ce plateau-là, ça va de Ella, Jahabi, deux fois, qui m'ont tous témoigné de leur affection. En passant par Abdoulaye Kanté, merci à vous. C'est dans ces moments-là aussi qu'on voit qui est qui. Donc voilà, vraiment, j'espère que de là où il est fier de moi. Je sais qu'il était fier quand il était là. Et voilà, qu'il repose en paix. Prenez soin de vos parents, de vos proches. C'est important, la vie, elle est courte. On n'en profite jamais assez. On pense toujours qu'il y a du temps. Et finalement, il n'y a pas tant de temps que ça. Donc voilà, merci, désolé pour ces larmes en fin d'émission. Merci Abdoulaye d'avoir été mon invité.
Merci beaucoup, merci.
Merci à Jay qui était à la réalisation technique et à l'autre Jay qui était à la réalisation caméra. Passez une bonne soirée. Faites attention à vous et encore une fois, profitez vraiment de vos proches. Le temps, il est court et nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel invité et il y aura un peu plus de sourire et de rire que pour celle-ci. Bonne soirée.
Là, je suis pas bien. Donc la morale, tu vas la faire à d'autres. Là, je suis pas bien.
Mon Paris est fait.